Bonsoir à tous, nouveau numéro aujourd'hui soir de Pouch Live. Nous recevons ce soir Olivier Thériault. Bonsoir Olivier, comment allez-vous?
Bonsoir Nicolas, bah écoutez, ça va. On profite des premières sorties du haut des confinements. Le confinement, ça ne nous a pas empêché d'être énormément sollicités. Donc voilà, le rythme n'est pas trop compliqué à reprendre.
Bon, tant mieux. Alors, je vous présente, Olivier Thériault. Vous êtes délégué syndical CGT RATP Boost. Vous avez été très visible dans les médias pendant la réforme des retraites. On vous a beaucoup vu. On vous a beaucoup vu aussi pour en parler. Vous avez fait quelques sorties qui ont été remarquées. D'ailleurs, les médias adorent ça, les grandes chaînes mainstream. Donc, vous étiez d'ailleurs ce matin sur LCI, Olivier Thériault. Vous avez peu parlé ce matin sur LCI. C'était une minute pour vous. Alors, aujourd'hui, chez Pouch, vous allez avoir beaucoup plus de temps que ça pour exprimer et on va faire le tour de la lutte sociale. Première chose, Olivier Thériault, comment ça se passe du côté des conditions sanitaires, la RATP?
Ça se passe que le fameux dialogue social de M. Djebari, comme je l'écoutais hier, ou c'était avant-hier son intervention, qui nous disait qu'il y a un dialogue social de bon niveau pour pouvoir gérer cette situation de crise sanitaire en partenariat ou en collaboration, enfin, je ne sais pas quel terme ils aiment bien utiliser de ce côté-là du travail.
En bonne intelligence. Ouais.
Ce qu'on a pu voir dans cette période, c'est que le dialogue social, c'est inexistant. D'ailleurs, moi, je suis secrétaire d'un comité social et économique dans mon secteur. On a demandé des séances extraordinaires pour pouvoir poser des bonnes questions et justement être dans ce travail de concertation et donner notre avis sur des possibilités justement de préserver la sécurité et la santé des travailleurs. Ça a été une fin de non-recevoir pendant presque l'ensemble de cette période. En tant que secrétaire de cette instance, j'ai fait ma première demande début avril. Notre première séance sur ce sujet pendant le confinement a eu lieu le 7 mai. Donc, pour nous présenter le plan de déconfinement qui devait s'exécuter donc lundi, et à savoir que lundi, cette séance, on l'avait continuée parce qu'elle n'était pas terminée et on n'a pas encore terminé. Donc, ils ont tellement reculé les échéances, ils ont tellement peu anticipé la situation qu'aujourd'hui, on a tellement de choses à dire que nos séances, ça dure une éternité. Et du coup, faut qu'on trouve le juste milieu pour faire des séances où on pose sur papier, sur PV, des choses importantes et primordiales pour que par la suite, on puisse faire reconnaître en cas de décès dans l'entreprise ou en cas de contamination au Covid à la suite de l'exercice du travail, qu'on puisse faire reconnaître ça comme maladie professionnelle. Enfin, on a tout un tas de démarches à faire, nous, élus du personnel, pour justement pas laisser la place à l'entreprise de faire tout ce qu'elle veut et finalement de créer tout un tas de laissés pour contre de cette situation, alors qu'on rappelle quand même que le virus, c'est quand même c'est le gros symbole de notre société capitaliste, quoi. On voit bien comment ça s'est passé. Donc non, c'est très compliqué parce que le fait d'être confiné, moi j'ai été confiné dès le 17 pour des raisons personnelles, ça nous a obligés à travailler à distance, à nous accaparer des outils que l'on n'aime pas trop utiliser parce que la visioconférence, c'est quelque chose que nos patrons aimeraient bien faire, ça leur éviterait de nous avoir dans les pattes régulièrement et de nous garder à distance. Bon, on est passé au-delà de ce précepte dogmatique. On a dit OK, très bien, on va faire de la visioconférence. Et puis pour le coup, nous, on a été dispo. Et la direction, elle avait beaucoup plus de difficultés à s'organiser. Donc on s'ennuie pas.
Alors, et c'est quoi les chiffres concrètement, Olivier Thériault, sur les malades du Covid au niveau de la RATP bus et peut-être des décès aussi?
Au niveau des décès, on en est à 5, si je dis pas de bêtises. Plus des prestataires, je crois qu'il y a un ou deux prestataires décédés. Moi, à titre personnel, j'ai perdu un bon camarade. Le premier décès en fait qui a eu lieu, en tout cas le premier contaminé, est mort. C'est un camarade de valeur, voilà, un ami. Hein. Pour beaucoup de camarades de la CGT. Après, en nombre de contaminés. C'est compliqué d'avoir des chiffres, c'est compliqué d'avoir parce que en fait, en fonction des périmètres, on n'a pas la même volonté de la direction de nous informer, tout comme il n'y a pas la même volonté de la direction d'harmoniser finalement leur méthode pour gérer cette situation. Donc, je ne saurais pas vraiment donner de chiffres. Et en plus, se poserait même la question de la fiabilité des chiffres. Parce qu'il y a sûrement des personnes qui sont arrêtées sans qu'on ait reconnu le Covid. C'est tellement vague parce que après, la façon dont ont été finalement dépistés les gens par visio, ça garantit rien. Il n'y a pas de tests qui sont faits. Et quand bien même il y a des tests, même les tests, on peut avoir des faux négatifs. Je pense pas que le problème ce soit une donnée chiffrée. Je pense que plus que de tirer des bilans et faire les constats des contaminés, il faut plutôt rester vraiment dans la prévention. Et vraiment, nous, on insiste, on est tout le temps derrière l'entreprise et ses responsables pour les rappeler à leurs obligations de santé et de sécurité envers leurs salariés et leurs obligations, de mettre en place toutes les mesures en concertation avec les élus du personnel. C'est des obligations légales. Ils ont vite fait d'oublier et ils se cachent derrière des annonces gouvernementales ou les annonces de IDFM à travers la voix de Madame Valérie Pécresse pour dire nous on attend nanana, mais sauf que le seul responsable de la santé et de la sécurité des travailleurs c'est l'employeur. Voilà, et ça on a énormément de mal à leur faire comprendre, même s'ils le savent très bien. Et ça nous demande beaucoup d'énergie, ça nous demande une vigilance de tous les instants pour s'assurer que aussi bien pour les travailleurs de la RATP que pour les usagers qui utilisent leur transport et de façon de plus en plus forcée, on le voit bien avec ce déconfinement, ça nous demande beaucoup d'efforts pour s'assurer vraiment que le maximum de mesures soient prises pour éradiquer, ça serait bien sympa, mais faut pas non plus vivre dans le monde des bisounours pour limiter au maximum la propagation de cette pandémie.
On chuchote chez vous un droit de retrait dans les prochains jours. Vous pouvez nous en dire plus, Olivier Thériault, là-dessus ?
Alors ça, c'est le droit de retrait, c'est un mot qu'on utilise un petit peu à toutes les sauces. Je l'entendais avant le début du conflit. Je l'entends, mais j'ai aucun problème avec le droit de retrait. Justement, c'est la possibilité de se mettre en retrait quand on se sent en danger. Le droit de retrait, c'est à titre individuel, hein. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas dire à quelqu'un tu es en droit de retrait. Et souvent, ce mot, il est employé comme ça très largement sans vraiment savoir comment ça se fait. Un droit de retrait, c'est cadré par la loi et c'est très compliqué à appliquer, mais en effet, nous, on est partisans. Que les agents se mettent en droit de retrait à partir du moment où le minimum, enfin pas le minimum, mais le nécessaire est fait pour qu'ils soient dans des bonnes conditions pour aller travailler en santé, en bonne santé, en sécurité, qu'ils ne soient pas mis en danger. Et là, ça va être le sujet qui va arriver et que j'ai pas pu développer justement ce matin sur ce fameux média qui est LCI, c'est qu'en fait, la montée en puissance qui va arriver va provoquer fatalement, et on a déjà les premiers retours des hier d'agression, va provoquer des effets de foule et de l'énervement. Et au bout de ce processus, c'est des machinistes, enfin des conducteurs des conductrices et des conducteurs de bus qui vont devoir gérer tout seuls cette situation. Donc ça aussi, en termes de sécurité, c'est un peu limite. Demain, on nous dit qu'il y aura 100% du réseau qui sera en fonction. Ce 100%, il ne veut strictement rien dire pour deux raisons. Premièrement, au niveau des effectifs, il n'y aura pas les effectifs. J'en suis persuadé parce que sur 45 000 agents, dont 17 000 agents, enfin 15 000 agents de conduite sur le réseau extérieur, sur le réseau de surface, il y a des personnes qui sont des personnes qui rentrent dans les cas, de personnes sensibles, à risque, personnes à risque. Oui, il y a aussi des conditions qui peuvent nous échapper. Il y a ceux qui seront malades aussi pour des raisons diverses et variées. Donc, il n'y aura pas les effectifs. Et en plus, ça, c'est la conséquence directe de la politique sociale que mène la RATP. Donc, sur cet aspect-là, si demain on nous annonce 100%, c'est des belles paroles. Parce que, en fait, il faudrait plus que 100%. Il faudrait augmenter l'offre de transport et bien analyser où est-ce qu'on en a besoin. Les besoins un secteur ne sont pas les mêmes. Je reviens souvent sur la Seine-Saint-Denis, mais c'est une réalité. Il y a énormément de travailleurs, des fameux gens qui se lèvent tôt. La plupart, ils viennent de la Seine-Saint-Denis. Et les lignes des dépôts comme le dépôt de Saint-Denis, il y a des lignes qui sont saturées aux heures de pointe. Et déjà, dès hier, il y a eu des agressions avec des crachats. Alors, dans la période, c'est vachement agréable de recevoir des crachats. Déjà, quand en normal, c'est pas terrible. Alors là, avec le virus…
C'était le machiniste Olivier Thériault qui était visé dans les crachats, c'est ça, hein ? C'est le machiniste qui était visé.
Bien sûr. Mais quand bien même, on a même le souci de ce qu'on transporte. Donc, ça va forcément créer des effets de foule. On l'a vu hein, dans le métro. Je ne vais pas dramatiser parce que c'est aux heures de pointe dans RER, dans le RER ou dans le métro où on peut voir que les distanciations physiques, parce que distanciation sociale, ça c'est du, c'est comment, c'est la novlangue, hein, c'est pour faire joli, mais
Oui, c'est les
voilà, les
technocrates
distanciations.
qui ont inventé ça, ouais. Les technocrates ont inventé ça.
Le vrai terme, c'est distanciation physique, faut appeler un chat un chat. C'est pas réalisable, c'est pas réalisable. Et on pourra mettre autant de bus qu'on veut de toute façon. Si on met, remet tout le monde au travail, ça ne sera pas réalisable. Et même si on met la moitié des gens au travail, ça ne tiendra pas. On ne peut pas respecter les distanciations sociales. Et d'ailleurs, les patrons des entreprises de transport l'ont fait savoir, ça ne serait pas applicable. Alors ça ne nous empêche pas d'essayer au maximum de nous mettre au boulot et de nous mettre la pression pour qu'on soit disponible. Donc, il faudrait vraiment augmenter l'offre de transport, et ça se fait pas en un claquement de doigts. Ça va pas aussi vite que les belles annonces. Hein. Pourquoi? Parce que la RATP, elle, pour être payée, hein, faut être très pragmatique, pour être payée, c'est Île-de-France Mobilité qui la paye. Donc, pour qu'elle rajoute du matériel, déjà faut qu'elle l'ait. Et ça, c'est un petit sujet aussi, je peux aborder. On va rigoler. Il s'est passé un petit truc
Bien
ce matin dans
sûr.
mon dépôt. Il y a donc est-ce qu'il y aura le matériel disponible hein, parce qu'il faut l'entretenir le matériel et c'est pareil dans les agents d'entretien il y a pu aussi y avoir des manques d'effectifs à juste titre et il faut aussi que IDFM accorde la possibilité d'augmenter le trafic alors il pourrait aussi très bien décider de le réduire à un endroit et de l'augmenter à un autre c'est assez compliqué à faire parce que les lignes sont organisées par défaut et des fois il y a il n'y a pas de concordance entre eux pour s'organiser, quoique encore, on arrive à le faire, c'est toute la force d'une entreprise intégrée, une entreprise publique, hein, qui est en train d'être détruite d'ailleurs. Mais voilà, et ça, donc la RATP, il faut qu'elle fasse des demandes. Alors j'aimerais bien voir si IDFM est capable de répondre très rapidement à ses besoins. Et ça, j'émets quand même un très gros doute, hein. Mais bon, et puis il faut aussi mettre du monde en métier de support. Hein, ce qu'on appelait avant les métiers de support, c'est des gens sur le terrain qui ne sont pas à la production, qui sont là pour aider les gens, hein, pour les informer. Bon, ça n'existe plus à la RATP. Hein, depuis 2003, on a une politique de démantèlement de l'entreprise et on a vu des métiers disparaître. Et c'est les missions support hein, qui ont disparu au détriment de l'exploitation. Et du coup, bah, on fait appel à des entreprises extérieures hein, pour faire de la canalisation de flux, où on va se servir. Comme ça, comme on peut à la petite semaine, des contrôleurs, dont on est aussi en train de défoncer les conditions de travail, des contrôleurs de la RATP pour faire la canalisation de flux, pour faire du rappel au port du masque. Et voilà. Il faut des gens pour distribuer des masques gratuits, parce qu'on ne peut pas forcer les gens à prendre les transports au travail, enfin les forcer à mettre des masques et leur demander de payer en plus. C'est 200 euros de budget. Hein. Aujourd'hui, on voit bien toute la polémique qu'il y a autour des masques et la spéculation qui est faite autour des masques. Et encore une fois, c'est qui doit payer? C'est les petits prolos qu'on force à aller travailler. Donc, il faut des gens pour distribuer les masques. Il faut des gens pour régler les situations conflictuelles. Il faut toute une organisation qui a disparu, qui existait, mais qui a disparu justement parce qu'on est rentré dans cette ère où il faut mettre tout en concurrence. Voilà. Donc, il y a énormément de boulot pour qu'on puisse être au bon niveau. Si on a le sentiment qu'aujourd'hui ça se passe bien, c'est parce qu'aujourd'hui on n'est pas encore rentré dans la phase de pleine charge. Je ne suis pas le seul à le dire parce que même des médias qui ne sont pas forcément proches de mon obédience le disent, le vrai test, ce serait plutôt à partir de la semaine prochaine. Donc voilà. En tout cas, nous, à la CGT, on n'est pas dupes. Aujourd'hui, là, il y a une espèce comment dire, de petites com qui est faite par le gouvernement. On a vu Olivier Véran sur le terrain, on a vu Blanquer sur le terrain, pour nous faire oublier qu'en fait, c'est quand même ces gens-là qui nous mettent dans une situation pas possible. Ils sont en train de détruire le service public. Hein. Mais on va voir quand ça va se durcir, comment ils vont se positionner. Voilà. Est-ce que les grands discours paternalistes et hypocrites de Macron vont continuer à passer comme ça?
Oui, parce que qu'on comprenne bien, Olivier Thériault, vous êtes à bord de votre bus, quelqu'un qui monterait sans masque, vous êtes obligé de lui demander de porter un masque, c'est ça? Vous avez un pouvoir de coercition vous-même?
Non, on peut le rappeler, de mettre un masque. Alors ils ont mis en place, vous savez, un boîtier quatre annonces là pour dire avancer dans le bus. Hein. Bon apparemment, mais moi dans mon dépôt hier, c'était pas encore en fonction sur tous les bus, j'ai pas pu le tester. Il y aurait sur notre boîtier de commande des phrases pour rappeler à la réglementation au port du masque. Bon, mais nous, déjà en temps normal, on n'a pas le pouvoir de faire descendre quelqu'un du bus. Voilà, on n'a pas le pouvoir. Et puis surtout, enfin, je veux dire, on ne va pas se mettre en difficulté. Nous, on est tout seul dans notre bus. Hein. On doit faire et ça se retourne souvent contre nous. Hein. Et on ne sait pas comment ça peut se passer. Donc, déjà, on n'a pas ce pouvoir-là. Mais alors, en plus, si on nous demande de faire la police dans notre bus dans une situation aussi sensible, mais faut imaginer les proportions que ça va prendre. Donc, voilà. Et nous, on a posé la question en plus à la direction. Mais qu'est-ce qui fait l'agent s'il voit que son bus il est blindé? C'est une question importante. Nous, on transporte pas du bétail, on transporte pas des, on transporte pas des, du numéro, des matricules, on transporte des êtres humains. Et comment on fait quand la situation fait que ces gens sont obligés d'être entassés parce que eux, ils ont au moins une peur, c'est d'arriver en retard au travail. Hein, le MEDEF, il a beau dire on a signé des chartes et ceci, cela, l'employeur, quand il va voir arriver ses employés en retard, il va leur dire ah, écoute, hein, je vais t'enlever du temps, tu me dois tant, ou du salaire, ou écoute, allez, c'est la porte. Hein, de toute façon, on est dans une vague où on va licencier beaucoup de gens. Donc, bah, tu es arrivé après lui, bah, c'est toi qu'on va licencier. Donc, tout ça, c'est des situations qui créent de l'émotion, qui créent de l'énervement parmi les usagers. Et c'est pas aux chauffeurs de bus, c'est pas aux copines et aux copains qui prennent déjà le risque de venir travailler dans ces conditions-là, de faire la police et de se mettre eux-mêmes en danger.
Alors, que je comprenne bien sur la semaine prochaine, c'est-à-dire que vous estimez qu'il y aura de plus en plus de monde au fur et à mesure des jours, Olivier Thériault, qui vont prendre les bus, qui vont prendre les métros. C'est ça, d'ailleurs, je rappelle que la direction de la RATP a envoyé un courrier à Édouard Philippe la semaine dernière qui avait beaucoup de polémique, d'ailleurs. On a l'impression que la direction se couvrait un peu des éventuellement trous à l'ordre public pour survenir sur le réseau francilien.
C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que eux ils mettent en garde le gouvernement, mais ils vont quand même appliquer. Comme les bons petits toutous du capital qui sont, les bons petits toutous du gouvernement, ils vont l'appliquer. Et c'est encore une fois les travailleurs qui vont morfler. Et je vous garantis que s'il n'y a pas une vigilance des syndicats et particulièrement notre organisation syndicale, enfin, faut pas rêver, quoi. Ça va être une boucherie. Donc eux, ils vont se cacher derrière ça, ils vont dire on a fait le nécessaire, parce qu'ils font vraiment, ils pensent. Ils pensent pas anticiper. Eux, ils font ce que la loi leur permet de faire au moment où la loi les arrange. Avec tous les décrets qui sont tombés, hein, on squeeze complètement les orgas syndicales, on squeeze les délais pour les consulter si on a envie de les consulter et demander leur avis. Donc, on dit pas qu'il faut pas reprendre le transport. Fondamentalement, on est pour que le transport reprenne progressivement et c'est normal. Mais ça ne doit pas être parce qu'on doit nourrir le fruit du capital. Voilà, c'est que c'est une nécessité le transport. Et d'ailleurs, on devrait prioriser le transport pour les premières missions essentielles comme la santé, l'énergie, alimenter justement les réseaux, donc alimentation et le nécessaire pour vivre. Voilà, tout ça, c'est important. Et bizarrement, c'est tous ces secteurs-là où les gens sont mal payés, mal considérés, où il y a du turnover, où il y a la déconsidération du métier. Et là, aujourd'hui, on les appelle les héros. Et dans la santé, il n'y a aucun emploi qui est prévu demain en sortie de crise. Hein. On ne va pas rajouter du salaire, on ne va pas rajouter des emplois dans la santé. Donc voilà, nous, on veut bien que le transport reprenne progressivement et on encourage les transporteurs et IDFM à mettre les moyens. Il faut mettre les moyens. Parce que, évidemment, on ne va pas éradiquer le virus. Et moi, je suis persuadé qu'il y a une seconde vague qui va arriver et qui va, de toute façon, on va forcément être conditionné par l'arrivée d'un vaccin. Voilà. J'espère qu'il arrivera le plus rapidement possible. Mais forcément, on va vivre autrement pendant un bon bout de temps encore. Mais là, on est tellement pressé de revoir les chiffres du CAC 40 remonter qu'on fait n'importe quoi. Et beaucoup de médecins le disent. Moi, je suis pas spécialiste. Il y a des spécialistes d'ailleurs. Il y a une commission de spécialistes au gouvernement, hein, et on les écoute même pas non plus. Donc, finalement, on voit bien l'intérêt du capital, hein, l'intérêt des actionnaires par rapport aux petits prolétaires. Donc, voilà. La question, elle est là. C'est pas est-ce qu'il faut conduire ou pas. C'est dans quelles conditions on va transporter les gens, quels moyens on y met. Et là, c'est tout l'intérêt du service public. Et ça veut dire aussi derrière, nous, on réfléchit à l'après. On se bat, on a été en grève. Ça a été dit au début, j'ai fait partie de ceux qui ont fait plus de 2 mois de grève. Hein. On a fait grève pour défendre nos retraites, pour défendre notre service public. La santé, ça fait plus d'un an qu'ils sont en grève. Vous avez les postiers, vous avez tout un tas de services qu'on a privatisés petit à petit. Hein. Et pour ceux qu'on on a terminé de privatiser, tiens, je prends la SNCF, entreprise maintenant privée. Ça y est, ils sont en train de pleurer qu'ils ont, ils ont perdu des milliards. Ah, oh, bah ouais, c'est plus de la puissance publique qui gère. Tout ça, bah demain, quand on sortira de cette crise, c'est, on fait quoi? On continue cette politique mortifère ou on revient à l'essence du service public et la préservation de tout ce qui est de l'ordre du commun et qui serait géré par la puissance publique, voilà, sous le regard de l'État. C'est aussi une question, voilà. Donc, et ça embrayera sûrement sur des luttes, j'espère, demain.
Donc, on va en parler, Olivier Thériault, effectivement, de ces luttes. On va en parler parce que comment vous voyez la suite? On a vu qu'hier, il y avait déjà des gilets jaunes qui étaient sortis un peu à Place de la République à Paris, dans l'Ariège notamment, avec les gaz lacrymogènes, à Toulouse pour les hôpitaux. Il y a Bandol également. Donc, il y a eu plusieurs points. Hier, d'ailleurs, même des syndicalistes, hein, je crois, en Normandie, pardon, qui se sont manifestés. Donc, on a vu que dès le premier jour du déconfinement, ça y est, la lutte reprenait finalement multimodale. Ça vous a fait quoi, vous?
Je rappelle quand même que le confinement est arrivé déjà à un moment où la lutte, elle était déjà très prégnante. Hein. Je veux dire, on n'a pas les gilets jaunes ne se sont pas arrêtés. Les revendications des syndicales, mais aussi les revendications de l'ensemble de la population et l'approbation de la plupart d'entre nous pour changer ce système, il ne va pas disparaître. Et justement, la preuve, on est fait tous les jours avec la manière dont est gérée cette crise, avec les mensonges qu'on a eu droit janvier, février, par l'ensemble des ministres, hein, parce que c'était franchement, c'était quand même le cirque d'hiver. Hein, ils nous ont fait des petites prouesses linguistiques, l'ensemble des ministères, hein, tu peux les citer un par un, ils nous en ont fait des belles, jusqu'à Tibet Ndiaye qui nous expliquait qu'elle savait pas mettre un masque. Enfin bon, je crois qu'elle a surtout pas, elle sait surtout pas où est-ce qu'elle a caché son cerveau, hein, donc ça c'est un autre problème. Mais ouais, moi je fais partie de ceux qui pensent que toutes les conditions sont réunies demain pour qu'il y ait une lutte, une vraie lutte sur le fond. Sur la défense du commun, sur aussi le fait que faut reprendre possession, d'un État-nation qui gère sa production, qui voilà, je parle pas de fermer les frontières et de vivre en autarcie, mais en tout cas de reprendre la maîtrise de son pouvoir décisionnaire en tant qu'État-nation. Hein, et de reprendre possession de sa production. Comment ça se fait que on n'ait pas réussi à produire les masques en France, et alors qu'il y a eu plein d'initiatives qui ont été faites. Je crois qu'il y a eu même une initiative dans le 18e où c'est une association, je crois, qui a fait des masques, qui a distribué des masques gratuits pendant 3 jours, et puis bizarrement la police intervient, il n'y a plus de distribution de masques parce que c'est pas normé ou quoi que ce soit. Enfin, il y a plein de choses qui sont incohérentes. Je sais pas, il y a les bouteilles d'oxygène. Si je dis pas de bêtises, les bouteilles d'oxygène, c'était une boîte française qui les produisait. Ils avaient l'exclusivité sur le truc parce qu'il y avait qu'eux qui les faisaient. Ils tombent en faillite. Hein. C'est pas quelque chose qu'on pourrait nationaliser, ça. C'est pas ce genre de choses dont on a besoin, c'est des choses primordiales où on devrait pas être sur de la spéculation, hein, les masques, on devrait pas être sur la spéculation. Enfin, tout ça, ça a du sens. Et s'il y a bien une chose positive que peut avoir apporté cette pandémie, cette crise sanitaire majeure, c'est bien la nécessité d'avoir des systèmes solidaires, d'avoir des choses qui nous protègent. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait que les gens sont pas dans la misère, vraiment pas dans la misère, hein, faut pas se raconter d'histoire, c'est les caisses de solidarité, c'est la sécurité sociale là, qui est en train de supporter et qui va supporter tous les problèmes. C'est pas les actionnaires. Hein.
Je me permets, Olivier Thériault, on a repoussé rapidement la réforme des retraites et la réforme de l'assurance chômage. Apparemment, ça marchait si bien. Et là, de par hasard, dans le cas échéant, ce cas d'école, on repousse tout parce qu'apparemment, c'est pas si formidable que ça.
Alors, moi, ça me rappelle un truc. Je suis passé sur BFM et j'avais Anne-Christine Lang, je crois. C'est ça son prénom, si je ne me trompe pas. Et on parlait de la réforme des retraites. Et je lui ai posé une question. On m'a pris pour un teubé. Je lui ai dit, mais si demain, il y a une crise, qu'est-ce qui va se passer avec la réforme, enfin, avec le système par points, tout ça. Ah bah oui, ah bah si, s'il y a une crise, hein, si c'est demain, c'est ça part dans tous les sens. Ah bah oui, il faut voir, le monde va être détruit. Bah bam, je suis pas visionnaire, tiens. On fait comment, Madame Christine Lang, Marie-Christine Lang, maintenant? Là, c'est le bordel partout. Et bizarrement, bah ouais, la réforme de la retraite, c'est plus pressé, c'est plus nécessaire. La réforme, le chômage, on va attendre un petit peu, hein, on va gérer la crise. Et imaginez si ça s'était passé 10 ans plus tard. Et que pendant ces 10 ans, ils continuent à détruire ce qu'ils sont, enfin, finir le travail qui est fait par les différents gouvernements depuis des dizaines d'années. Eh ben, il n'y a plus rien pour les travailleurs, il n'y a plus rien pour la classe moyenne, et les sous qui ne rentrent pas, eh ben, ils ne rentrent pas. Et il n'y a plus de système qui protège les accidents de la vie de chaque citoyen, et c'est seulement les plus riches qui pourront se protéger. Comme dit Darmanin, hein, notre grand argentier, les pauvres, il faut les faire retourner à l'école, tout ça, hein, parce que ils sont pas assez bien cultivés, pas assez intelligents pour être capables de se cultiver entre eux. Donc déjà un gros déni de classe, c'est de l'intelligence de classe. Hein. Et nous, les riches, ne vous inquiétez pas, hein, les familles de 4 sup, on saura se débrouiller. Mais c'est exactement ça, c'est ça l'avenir. Donc j'espère quand même que ça a fait réfléchir parmi nos plus de 60 millions. De Français, ça en a fait réfléchir un bon paquet sur ce qui est mis en place depuis des années, et que ça leur donnera l'envie de se battre pour des choses fondamentales. Peut-être que ça leur a ouvert l'esprit, et j'espère vraiment qu'on va reprendre la lutte sociale sur les bases sur lesquelles on les a quittées. À une chose près, c'est qu'il va falloir vraiment qu'il y ait plus de monde dans la course, parce que si on reprend la lutte comme on l'a fini, j'ai bien peur qu'on ne soit pas assez. Et il faut vraiment que les gens prennent conscience que le gouvernement, il ne changera pas sa politique. Il attend que la crise elle passe. Il va y avoir un fort chômage. Ils vont faire payer les petits prolos. Il ne faudra pas compter sur les assurances. Il ne faudra pas compter sur l'actionnariat. Il ne faudra pas compter sur le fruit du capital. Il ne faudra pas compter sur la bourgeoisie. On va devoir se démerder. Si on ne change pas ce système, si on continue cette avancée du capitalisme totalement débridé, déjà même ne serait-ce que le système capitaliste, il y aura qu'un vainqueur, c'est celui qui met ce système en place, c'est les moins de 1%, de 0,1%. Voilà, il y a que eux, hein, qui s'en sortiront, et nous on pourra crever la gueule ouverte, ça changera rien. Voilà, et la démonstration elle est faite aujourd'hui. Voilà, il y a pas de masque, c'est pas grave, hein, vous pouvez quand même aller dans la rue. Ah mince, maintenant qu'il y a des masques, c'est obligatoire, hein. Surtout si vous le mettez pas, on va vous taxer, on va vous faire payer. Voilà, c'est ça la France aujourd'hui, la France de Macron. Mais c'était la France d'Hollande, c'était la France de Sarkozy. Faut pas se mentir, hein, ça a pas changé, ça s'est juste accéléré parce qu'on a laissé faire, on a trop laissé faire. Et quand je dis on, je me sens pas engagé dans le on parce que nous on n'a pas laissé faire. À la CGT, je suis aussi engagé politiquement au Parti communiste. Nous on a toujours combattu ce système-là et on continuera à le faire. Et je pense que le combat des Gilets jaunes aujourd'hui prend toute sa raison. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut plus stigmatiser. Les gens qui les stigmatisaient encore hier, il faut qu'ils arrêtent parce que finalement, tout ce qui est mis sur la table, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est du concret.
Une question, le premier round est sonné, hein, pour samedi, le 16 mai. Il y a plusieurs appels nationaux, d'ailleurs, qui ont été lancés par les Gilets jaunes. C'est la manif, l'acte 77, je crois, 76. Mais si je me trompe, on va me le dire dans les commentaires. Donc c'est déjà, vous l'avez dit, la lutte des Gilets jaunes, la lutte sociale, reprend dès samedi. On a vu qu'il y avait des rapports entre les syndicalistes et les Gilets jaunes. Vous pensez que ça peut refaire convergence dès samedi pour ces appels?
Ah ben moi j'en suis persuadé. Moi je prône pour ça de toute façon. J'ai beau être à la CGT, j'ai beau être au Parti communiste, je suis fondamentalement pour le mouvement social qui est mené aussi par les Gilets jaunes. Pour moi c'est pas opposable. Mais comme tous les mouvements, bah forcément il y a des couacs, il y a des difficultés à faire que les uns s'entendent avec les autres. Moi, je suis pour ceux qui font. Voilà, je suis partisan de ceux qui font et qui font fi justement de tous ces petits problèmes de personnalité. Voilà, faut y aller quoi. C'est pas sur les réseaux sociaux, c'est pas en disant t'as vu lui il a fait ceci, lui il a fait cela. Oh, C'est dans la rue que ça se passe. Voilà, c'est dans la rue et c'est le samedi et c'est aussi dans les entreprises. Donc, gilets jaunes, syndicalistes, c'est le même combat, c'est pas forcément les mêmes méthodes ou les mêmes moments, c'est pas le même coup des fois, hein, parce que c'est sûr que on peut manifester le samedi quand on travaille la semaine, c'est plus dur des fois aussi de perdre de l'argent, mais quand on se bat pour quelque chose, on sait pourquoi on perd de l'argent. Hein. Moi, j'ai touché 1 200 € en 3 mois, hein, et je l'assume. Je mange des pâtes, c'est pas grave, je vis pas. Voilà, bon, bah, le Covid, ça m'aura un petit peu isolé, ça m'aura évité de dépenser des sous que j'aurais peut-être pas eu à dépenser finalement. Ça aussi, c'est pareil, ça a peut-être aussi permis aux gens de retrouver finalement de l'intérêt à la solidarité, à l'échange entre personnes et pas à l'échange monétaire. Enfin, je trouve quand même que tout est fait dans cette période par l'intelligence populaire. Pour retrouver les bases de ce qui a fait la grandeur de notre pays social. Voilà. Donc, j'espère vraiment que tout ça, c'est pas en vain. Des fois, je me fais un petit peu peur quand même, parce que quand je vois les gens qui se précipitent pour aller au drive au McDo, bon, ceux-là, pour moi, ils sont perdus. Hein, on n'en fera jamais rien, malheureusement. Je crois que la bêtise humaine, elle a pas de limite. S'il y en a qui m'entendent, bah, je l'assume totalement ces propos. Franchement, je crois qu'à un moment, faut vraiment se poser les bonnes questions. Il y a des choses dont on peut se passer. Il y a des choses qui n'ont pas d'intérêt. Par contre, il y a des choses fondamentales. Et pour les garder, il va falloir se battre.
Olivier Thériault, encore 2-3 questions. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui pourraient rejoindre la lutte sociale qui ne sont pas du tout syndiqués pour le coup, hein, ni gilets jaunes, qui n'étaient pas gilets jaunes, et qui viendront dans la rue dans les prochains jours, les prochaines semaines, parce que peut-être que cette crise du coronavirus et ce qui s'est passé va leur ouvrir les yeux ou pas, selon vous?
Je reste un éternel optimiste, donc je pense que oui. Pour ça, il faudrait quand même qu'on ait affaire à des personnes qui, quand ils regardent BFM TV ou LCI, soient capables de prendre un peu de recul quand même. Mais ouais, je pense quand même que ça va changer les choses. Peut-être pas aussi radicalement qu'on pourrait le souhaiter. Mais comme je dis, les démonstrations, elles se sont faites toutes seules dans cette période. Et la malhonnêteté intellectuelle de nos gouvernants, là, c'était compliqué de la cacher. Je rappelle, hein, je peux refaire un petit peu un retour en arrière. Agnès Buzyn, par exemple, qui nous dit non, on est prêt pour gérer la crise, on a les masques nécessaires. Au passage, si les gens ne le savent pas encore, il faudrait savoir qui est son mari et il faudrait savoir un petit peu si ses liens avec le fameux laboratoire de Yuan qu'on serait en train de cibler, s'il n'y aurait pas un petit conflit d'intérêts, par exemple. Hein. Faudrait voir cette guéguerre avec les protagonistes de la comment ça s'appelle, le médicament là,
la chloroquine, l'hydroxychloroquine.
Alors, je suis pas docteur, hein, mais bon, bizarrement, il y a toute une levée de lobbyistes contre ces propos-là, même si je partage pas forcément tous les propos du docteur Raoult. Mais voilà, enfin, je suis pas médecin, mais on voit bien qu'il y a des grands enjeux encore derrière des grands lobbies. Donc voilà, donc Agnès Buzyn, non, tout va bien. Ensuite, bah, il y a l'histoire de la zigounette à Grivoux. Bon bah maintenant j'ai plus d'ennemis, je vais pouvoir me mettre à la mairie, hein, je vais pouvoir me mettre dans la course à la mairie. Tout va bien, vous inquiétez pas. Olivier Véran, rassurez-vous, il va gérer la situation. Je vais donner les clés, je verse une petite larme parce que franchement ça fait mal de quitter ce ministère que je suis en train de détruire. Mais rassurez-vous, Olivier Véran le fera mieux que moi parce que c'est lui qui a mis en place le plan pour casser tout le système hospitalier français. Donc voilà, elle fait un score minable aux élections parce que les municipales, c'était l'aveu des Français qu'ils en avaient ras le cul de cette bande de capitalistes qui sont passés pour un parti politique qui est la REM. Et là, bizarrement, Madame Buzyn, j'étais au courant, j'avais prévenu de la gravité, ils étaient au courant. Bah, allez, premier truc, voilà, ça c'est parfait. Je peux en citer d'autres, hein, notre cher ministre, comment il s'appelle, là, le roi des mensonges, là, qui a fait tous les mandats sauf le mandat de maire. Ah tiens, Bruno Le Maire. C'est Bruno, c'est ça, hein.
Oui,
ouais,
Bruno Le Maire, ministre de l'économie, oui.
Voilà, exact. Quand on annonce qu'on va faire, qu'on va pas aider les entreprises qui ont des filiales dans les paradis fiscaux, on les aidera pas à la sortie du Covid, et que le même jour, quelques heures plus tard, en commission du Parlement, on enlève ce décret, parce que la majorité appartient à son parti politique, hein. On enlève ce décret, et finalement, bah, ceux qui trichent avec l'argent public et qui le récupèrent pour cacher dans les paradis fiscaux, on va pas les toucher. Voilà, ça c'est encore un exemple. Et j'en ai plein des exemples sur chaque ministère. Blanquer qui nous dit au débat, oh les enfants, il n'y a pas de risque, hein, les enfants, ce serait complètement idiot de les retirer de l'école. Et avant même la fin du début du confinement, on les retire de l'école. Et maintenant qu'on les a retirés de l'école, on dit, ah mince, il y a un problème. C'est qu'on a quand même besoin de leurs parents pour les envoyer au travail, se sacrifier pour le capital. Et maintenant, il faut remettre les enfants à l'école. Voilà, c'est encore une incohérence. Et je sais pas, qu'est-ce que je peux citer? J'en ai tellement à dire sur ce ministère. Et si moi, je suis capable de faire cette analyse, je suis pas plus bête que n'importe qui. Je suis pas plus bête que la moyenne des Français. Je considère même que finalement, je peux même être en dessous. Donc, j'ai beaucoup d'espoir sur le fait que ce que j'ai pu voir, ce que mes camarades ont vu, ce que les citoyens ont vu, bah voilà, ça leur a amené cette réflexion. Et donc, ça doit quand même les aider à réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir. Voilà. Est-ce qu'on veut continuer à voter pour des gens qui proposent ce système qui nous conduit fatalement à enrichir des gens qui sont déjà suffisamment riches, ou est-ce qu'on va finalement continuer à voter ou changer un système, voter pour des personnes qui proposent une autre alternative? Et il en existait déjà, et je pense pas me tromper en disant que parmi les gilets jaunes, il y a une intelligence aussi qui va proposer des choses aussi demain. Et ben, il faudra y réfléchir. Il faudra réfléchir à quelle république on veut, quel avenir on veut. Et donc voilà, pour répondre le plus simplement, ouais, je suis persuadé quand même au fond de moi que demain les conditions sont réunies pour que les gens changent d'attitude et finalement accordent du crédit à la lutte sociale et à l'intérêt d'être dans la rue.
Alors, une dernière question, Olivier Thériault. J'aurais qu'on parle de l'Union européenne, parce que vous parliez tout à l'heure de nationalisation. Vous savez qu'aujourd'hui, une série de mesures économiques et fiscales sont interdites par l'Union européenne. Donc, aujourd'hui, nos gouvernants qui s'y complaisent ne peuvent rien faire parce qu'ils ne veulent pas le faire, très certainement, mais ils ne peuvent non plus pas le faire parce que l'Union européenne l'interdit.
Oui, enfin, l'Union européenne, elle peut interdire ce qu'elle veut. C'est quand on décide de rester dans les règles de l'Union européenne. On va dire, on peut rien faire. Bon, voilà. Moi, quand je peux pas faire quelque chose, je trouve une excuse. Je peux pas le faire parce que, voilà, ça c'est l'excuse. Si l'État, si notre gouvernement ne veut plus répondre aux obligations européennes, ils en ont le pouvoir. Ils en ont le pouvoir. Hein. Ils en ont même le pouvoir juridique, hein, institutionnel. Ils ont le pouvoir. Mais non, faut pas rêver. Ceux qui décident. Quand on dit l'Europe, c'est nos gouvernants. C'est nos gouvernants. C'est les Français. Hein, les Français d'allons, mais c'est des gens, d'ailleurs pour qui on n'a pas voté, mais ce sont les mêmes qui gouvernent dans nos pays. Donc ils sont totalement d'accord avec cette politique, et ça leur sert de prétexte pour dire c'est pas notre faute, c'est au-dessus. Ça, c'est une technique vieille comme le monde. La hiérarchie fait que c'est jamais la faute de celui qui est au-dessus, c'est celui de la faute de celui qui est encore au-dessus, et à la fin, finalement, c'est la faute de personne. Voilà. Donc si notre gouvernement ne veut plus répondre aux instructions de l'Europe, ils peuvent le faire. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il ne faut pas oublier, hein, l'Europe, elle décide de tout, et les réformes à venir, les réformes qui ont déjà été mises en place, ça part de l'Europe. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, la vraie question, c'est quand est-ce que notre État, réellement, est un État-nation qui décide pour lui, sans aller dans l'extrémisme. Parce que,
là, vous parlez de souveraineté, Olivier Thériault, hein ?
De la souveraineté, je ne parle pas du nationalisme, je parle de la souveraineté.
Non, mais ça n'a rien à voir en plus, hein. Ça n'a rien à voir.
Voilà, on est dans une république, d'accord ? On vote pour un président, mais on ne lui donne pas les clés. Enfin, bon, la 5e République est faite d'une certaine façon que c'est exactement le cas, mais donc il serait temps de le changer, ça aussi. C'est qu'en fait, on vote pour un représentant. On vote pour un représentant, on ne vote pas pour un patron. Et ce représentant, il doit appliquer la volonté de ceux qui ont voté, des Français. Et on voit bien qu'il y a moins d'intérêt aujourd'hui à ce que les gens votent parce qu'en fait, ils ne se reconnaissent pas dans leurs dirigeants. Donc, ils ne sont pas là pour décider à notre place. Ils sont là pour appliquer quelque chose qui convient. Et je suis persuadé que la plus grande partie des Français n'ont pas envie de savoir qu'en fait, rien n'est géré par les personnes qu'ils ont élues. Ça ne les intéresse pas. Sinon, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, ils s'en rendent bien compte. C'est pour ça qu'il y a de moins en moins d'autres. Il faut revenir à quelque chose de plus concret où les personnes qu'on met en place, elles n'ont pas le droit de veto, elles n'ont pas carte blanche pour faire ce qu'ils veulent. Non, c'est tout l'intérêt d'une vraie démocratie. Alors, même certains puristes me diront que le terme démocratie, il est employé avec parcimonie. Donc, il y a d'autres choses qui peuvent être mises en place. On sort souvent égalité, fraternité, et puis tout ce que tu veux, hein. Faudrait rajouter sororalité d'ailleurs, ça serait pas mal. Mais ça, ce sont que des mots.
On vous entend mal, Olivier Thériault. On vous entend mal, je sais pas, s'il y a un petit problème sur le micro.
Là, ça va mieux?
Très bien, parfait, voilà, superbe.
Voilà. Petite extinction de voix, peut-être.
Non, ça va.
Donc, il y a un moment, il faut. Qu'est-ce qu'on veut? En fait, on nous a vendu. Moi, j'étais un peu jeune, mais on nous a vendu l'Europe. Voilà. Mais on nous a vendu une Europe sociale. On nous a fait croire que ce serait génial, c'est l'harmonie des peuples. Mais c'est pas une Europe sociale. Moi, je suis pas anti-européen. Moi, je suis pour l'harmonisation des peuples. Et ça passe aussi par dire, tout le monde a les mêmes conditions de travail, le même niveau de salaire, le même niveau de vie. Ça évitera le dumping d'un pays à l'autre et ça évitera de dire, le plombier polonais qui vient de l'extérieur pour piquer mon travail ou le camionneur, c'est lui le méchant alors que lui, il est juste la victime de ce système. Hein. Donc, pour moi, l'Europe des peuples. Là, on est dans une Europe des finances. Mais comment voulez-vous, dans une Europe des finances, ceux qui créent la richesse, ils trouvent leur compte? Ça peut pas marcher. Et là, on en voit les limites. Et les limites, elles sont que ces gens-là sont tellement au perché, mais ils sont pas inconscients de ce qu'ils font, que en fait, la crise sanitaire, ils s'en contrecarrent. Ils sont capables, dans cette crise sanitaire, de continuer à trouver des stratagèmes pour se faire encore plus de pognon. Donc voilà. Et c'est pour ça que les masques, ils sont pas à distribuer à volonté. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, meurent par la bêtise d'autres qui sont sur l'appât du gain, qui ont stocké des masques, qui ont tenté de les revendre. Monsieur Olivier Véran, je crois qu'il a des petits copains dans sa bande qui ont essayé de tricher avec les masques pour se faire du pognon. Hein, il y a plein de choses qui vont ressortir et moi je suis persuadé que demain il va falloir rendre des comptes et ça sera factuel et c'est aussi ce qu'on fait nous à la RATP. On est persuadé que demain il y a des gens qui vont rendre des comptes, mais ça il faut le factualiser, il faut laisser des traces et ça demande énormément de boulot, d'autant plus que évidemment tous les décrets qui sont pondus comme ça à la va-vite sont pas faits pour nous aider, et que la milice d'État qui est la police, qui nous tape sur la gueule depuis des années, elle est là pour nous empêcher aussi de manifester. Elle est là pour empêcher cette révolte sociale, alors que pourtant ils devraient être avec nous. Ce sont des victimes de ce système, et je suis sûr que pour la plupart, en plus, ils s'en rendent compte. C'est juste qu'ils manquent de courage. Voilà, avec un peu de courage, ils seraient avec nous au lieu de nous taper sur la tronche. Voilà, j'exclus pas quand même qu'il y a une petite partie de farcis qui aiment bien ça parce qu'ils peuvent pas taper sur leur femme légalement, hein, ou qu'ils peuvent pas taper sur leur môme, ou sur leur mec. Mais voilà, je pense que même eux, ils sont victimes de ce système. Donc, pour certains, c'est vrai, hein, jusqu'ici, ils pouvaient taper sur les manifestants. Il n'y a plus de manifestants, il n'y a plus de rassemblement. Maintenant, on va pouvoir taper sur les jeunes qui déjà en temps normal, dans certains endroits, sont défavorisés et ont déjà du mal à vivre et à vivre en société, à pouvoir faire des choses à l'extérieur. Là, on les enferme encore plus et on leur tape sur la tronche quand ils ont une petite envie de liberté parce que finalement, eux, ils n'ont rien demandé à personne, quoi. Voilà. Donc, c'est ça, quoi. On n'a rien demandé. On n'a rien demandé, on n'a pas demandé cette crise, on n'a pas demandé d'être victime du système capitaliste. Par contre, c'est nous qui payons, c'est nous tous qui payons.
Non, mais en tout cas, on vous savait extrêmement déterminé avant la crise du Covid. On voit que vous avez bien surmonté la crise et le Covid et que vous êtes tout toujours aussi déterminé, Olivier Thériault. Merci beaucoup d'avoir accordé cet entretien. On vous souhaite bon courage dans la lutte sociale, hein, qui est la vôtre, à la RATP. Nous, on se retrouve très bientôt. Dès demain, 18h30, je reçois Martial Ville, directeur de TV Liberté. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Bonne soirée à tous et à tous. Bye bye, vive la démocratie. Salut.
Merci beaucoup.